Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à court chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon.
C'est l'homme.
Quand Léo Ferré parle de la page des sports, du poil sérieux et de l'œil agrippé aux pucelles, il y a de quoi se demander c'est quoi être un homme, c'est quoi finalement la masculinité, la virilité. Rencontre avec deux membres du collectif Casse-Noisette pour discuter charge mentale, sexualité, récits culturels et patriarcat.
Casse-Noisette, c'est un collectif qui existe depuis 2021. Il est basé à Lille et le but, c'est de réfléchir ensemble à la masculinité hégémonique, la critiquer et proposer des pistes concrètes pour y faire face.
Et qu'est-ce que vous faites du coup dans ce collectif ?
Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des projections, des clubs de lecture, des cercles de parole, des ateliers de théâtre, de l'opprimé, donc d'éducation populaire en gros. On fait quelques actions militantes et je crois que c'est déjà pas mal.
Vous faites des cafés noisettes aussi ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça permet vraiment d'avoir des temps d'échange avec tout un collectif de personnes ?
Du coup, les cafés noisettes, en effet, c'est des temps d'échange, de partage de ressources. Donc les ressources sont plutôt centrées sur les masculinités, mais après on peut retrouver avec des ressources souvent de féminisme. Forcément, les choses sont liées. C'est des choses qui se font forcément dans des lieux un peu militants, où on va avoir du temps privilégié pour parler. Donc c'est des moments ouverts au public, à tout le monde, toutes les personnes qui veulent, même si on a sur place en fait une autogestion, qu'on s'anime entre nous. On fera attention à forcément au temps de parole. Et après, je crois que c'est une discussion, donc il n'y a pas d'autres quatre.
Alors moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui disent que ça y est, on a atteint l'égalité. Vous continuez à travailler là-dessus. Donc vous pensez qu'il y a encore du travail à faire ?
Ouais, bon, je réponds personnellement, mais je pense qu'il n'y a pas d'égalité qui est du tout atteinte. Nous, notre groupe, on ne prend pas parti sur en mode on a l'égalité ou pas l'égalité, c'est pas encore une question qui a été abordée.
Les valeurs du collectif, elles sont autour de la lutte contre le patriarcat, autour de l'autogestion et de l'inclusivité et contre les discriminations multiples qu'il peut y avoir. Dans la mesure du possible, on essaie de les éviter. Et donc, même si on n'a pas directement discuté du fait que est-ce qu'il y a une égalité ou pas, moi, il me semble que c'est un peu partagé par toutes les personnes qui passent. Je ne crois pas avoir rencontré une seule personne du collectif ou même à un événement pour qui l'égalité elle était atteinte. Pour moi, il y a un espèce de... C'est évident et c'est tellement évident qu'on n'en parle même pas.
Du coup, on fait beaucoup de réflexions sur les masculinités, sur la place des hommes dans ce monde patriarcal, hégémonique, aussi sur les discriminations, comme a dit mon collègue juste avant. Discrimination aussi combinée, donc tout ce qui va être discrimination intersectionnelle, du coup, toute l'intersectionnalité. Et forcément, c'est tout lié à plein de sujets différents. Typiquement, on parle de ça.
On parle aussi pas mal de sexualité, de genre, de couple, de care, donc sollicitude. Il y a beaucoup de thèmes et souvent on essaie de faire des séries, de faire différents formats autour du même thème. Il y a des personnes qui sont motivées par exemple pour parler un peu de parentalité. Donc on essaie de garder un peu des thèmes homogènes pendant une période de temps donné.
Justement, j'aimerais bien te parler de ces thèmes-là, d'avoir peut-être un peu votre avis plus personnel sur ces sujets-là. Déjà, est-ce que vous pouvez me donner votre définition de la masculinité hégémonique ?
Nous, on a découvert ce terme dans un bouquin de Rawin Connell qui s'appelle « Masculinities ». Et du coup, la masculinité hégémonique, c'est la façon socialement valorisée d'être un homme. Et du coup, c'est celle qui a la pyramide sociale des hommes, quoi. C'est la masculinité qui domine toutes les autres. C'est celle qui est associée à des valeurs très fortes de virilité, de pouvoir. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le schéma classique de la domination actuelle dans la société ?
Parce que je pense à tout ce qui est domination en fait plutôt j'allais dire inconsciente en fait, c'est l'éducation. Après ouais, c'est tellement global, t'as tout ce qui va être subtil. Donc les dominations en fait, tout ce qui va être éducatif, des choses qui sont rentrées et que c'est pas on suit des préjugés parce que ça a été en fait c'est une société qui est patriarcale donc elle continue à l'être. Et après, tu as des dominations qui sont beaucoup plus apparentes. Je pense au colonialisme, des choses, voilà, le pouvoir. On sait qu'il y a une utilisation du pouvoir par les hommes ou par d'autres personnes, voilà, sur d'autres populations. Mais j'ai pas, enfin, pour moi, c'est trop global. J'ai pas de palpation, donc peut-être tu as des éléments plus concrets que ça.
Bah, elle se traduit aussi dans des exemples hyper quotidiens. Bah, il suffit de se balader dans l'espace public ou dans une cour d'école ou dans une boîte de nuit ou dans une salle de réunion pour le voir en permanence à partir du moment où on met les lunettes du patriarcat pour le voir dans absolument toutes les situations de la vie quotidienne.
Je te suis, en fait, c'est tellement de choses qui est tout le temps présente qu'au final, pour la définir, ça va être... Enfin, moi, je vois ça, c'est tellement compliqué, c'est tellement présent tout le temps. On n'a pas d'autres... Moi, dans ma tête, j'ai pas d'autres représentations de société où il n'y a pas ce système-là de patriarcat et d'hégémonie masculine, en fait. Après, je sais qu'il en existait avant très très longtemps, mais c'est des raretés encore pas découvertes.
Ou dans la science-fiction, un peu, parfois.
Alors oui, en fait, c'est quelque chose qu'on revoit du coup dans la science-fiction. On voit des différents types de sociétés qui sont imaginées. Alors, typiquement, Ursula Le Guin, avec la main gauche de la nuit, si je dis pas de bêtises. On a beaucoup de science-fiction qui permettent de déquestionner ça. Et souvent, ça a été fait par des féministes qui réfléchissent à ces questions-là. En fait, c'est par les ressources, et moi, par l'imaginaire en plus, mais c'est les ressources qu'on se partage qui vont faire qu'on va avoir d'autres visions. D'éviter de... Enfin, moi, je suis vraiment pour éviter de se dire, même si c'est très très bien de voir la réalité des choses, d'avoir une critique, une analyse sur les choses, finalement, l'imaginaire permet de dire, ok, on n'est pas dans quelque chose qui tourne en rond. On va sortir de là, on va y arriver. C'est mon espoir à moi.
Est-ce que vous pensez que, biologiquement, la charge mentale, c'est la femme, la virilité, c'est l'homme, la contraception, c'est la femme, etc. Est-ce que y a une question biologique ou il y a une question d'éducation ?
Je pense typiquement que le genre est tout à fait culturel. Je ne pense pas que ce soit essentialiste. Hein. On est sur le camp féministe essentialiste. Pour moi, ça, c'est absolument tout à fait en décalage à ce qui se passe dans la réalité des choses, dans les preuves sociologiques, dans les choses qu'on a vues dans la vie quotidienne. Du coup, non, la charge mentale n'est pas quelque chose qui est censé être par le sexe. Après, si on parle de sexe social, et là, ça va parler de théorie féministe, le sexe social, du coup, c'est le sexe qu'on nous impose dans notre place dans la société. Et dans le genre social de la femme, malheureusement, pour l'instant, il y a encore une grande partie de la charge mentale. Je dis pas que c'est ça qui doit être. Hein. Je dis que pour l'instant, c'est comme ça qu'on éduque la plupart des personnes, en étant le genre social. Tu es un homme, donc c'est ton genre égal sexe, égal tout ce qu'on te met à côté, parce que c'est le social. Ce qui n'est pas ce que je souhaite, et ce qui n'est pas ce que plusieurs courants féministes disent, puisqu'ils pensent plutôt que c'est la culture.
Bah du coup, le sujet de la contraception, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous discutez peut-être même à l'interne du collectif, ou vous, personnellement, est-ce que vous vous renseignez sur ce sujet-là ?
Sur la contraception, du coup, on a eu une projection, par exemple, d'un film qui s'appelle « Oh les couilles ». Donc c'est des sujets qui ont été abordés avant ma venue. Apparemment, vous avez aussi abordé ça au niveau de la sexualité. Donc moi, quand je suis arrivée, on a plutôt parlé des slips contraceptifs, du coup, slips chauffants. Voilà. En tant que personne, moi, je suis stérilisée, c'était une volonté de ma part. Et pour moi, la contraception, c'est quelque chose qui se partage. On est tous responsables, et toutes responsables, du coup, des relations qu'on entretient.
Oui, bah, du coup, notamment grâce à la projection du documentaire qu'on a regardé ensemble, et aussi, on a un collectif à Lille qui aide à fabriquer des slips contraceptifs avec qui on est pas mal en lien, qui s'appelle Garcon 59. Mais moi, à titre personnel, j'ai fait le choix, vu que je suis pas dans une relation exclusive, de pas utiliser la méthode de slip chauffant, juste pour des questions de transmission de MST. Du coup, moi, j'utilise à titre personnel plutôt des préservatifs. Du coup, j'ai l'impression de porter la charge contraceptive, en partie en tout cas.
Autre sujet, j'entends souvent aujourd'hui, on peut plus draguer. Est-ce que c'est vrai ?
Mon rapport à la drague, c'est très très différent, puisque moi, je suis asexuel et aromantique, ace, en complet, exactement. Pour l'instant, je l'ai fini comme ça. Du coup, mon rapport à la drague, c'est quelque chose que j'ai jamais trop compris, puisque en fait, la drague, c'était quelque chose qu'on m'a vanté pendant des années, en mode, tiens, c'est comme ça qu'on a une relation, c'est comme ça qu'il y a plein de choses qui arrivent. Mais je vois ça un peu comme du rentre-dedans, un peu du forçage. Je comprends que ça peut être consentant, mais la plupart du temps, dans mon expérience, ça n'a jamais été très consentant des deux parties. Et du coup, c'était très romantisé, alors que pour moi, c'est juste des choses très basiques. En fait, c'est la personne, tu lui dis, est-ce que ça tu m'intéresses, tu m'intéresses pas. Je suis très contractuel, mais... Du coup, voilà, mon rapport à la drague est nul et non avenant. Et quand je le vois, ça me met très mal à l'aise. En mode, je fais exprès d'être plus gentil avec toi. Voilà, il y a un problème d'éthique en plus qui rentre en place.
Bah, c'est là où on voit le fait qu'on est un collectif, mais on a des rapports au monde et aux choses assez différentes. Moi, la séduction, c'est un truc qui occupe, en tout cas en ce moment, pas mal de place dans ma vie. Quand même, le collectif, ça m'a pas mal aidé à me questionner sur c'est quoi la séduction quand on a été socialisé comme un homme cis, donc cisgenre, donc le fait que je m'identifie encore assez souvent à mon genre avec lequel j'étais socialisé, quoi. Moi, j'ai un peu changé ma manière de séduire, entre guillemets. Avant, je me suis rendu compte que c'était tout le temps le même récit auquel je participais. Je suis l'homme, donc je suis conquérant, donc je prends des initiatives, et du coup, je vais créer des moments de tension sexuelle, et puis c'est à partir de ce moment-là que la personne en face va être ravie de vouloir établir une relation avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je rejouais en permanence ce script, et ça m'amusait pas, c'était chiant, et puis accessoirement, ça marchait pas hyper bien, ça plaisait pas forcément, ce que je peux comprendre, parce que c'est un peu répétitif, et pas du coup hyper exceptionnel. Et depuis, franchement, quelques temps, j'expérimente d'autres manières de séduire, dans un rôle peut-être un peu moins masculin, comme il est identifié en tout cas, et du coup, bah, parfois, avoir des postures un peu plus de passivité, et surtout de pas me dire la relation elle doit uniquement tendre vers une séduction de l'ordre amoureuse ou sexuelle. Ça peut aussi tendre vers d'autres types de relations et du coup pas forcément être proactif tout le temps et c'est plus s'adapter au contexte.
Est-ce que vous avez un avis sur le hashtag Not All Men qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux?
Je trouve ça très désolant. Même si c'est pas tous, le fait que ça puisse arriver et que ça va arriver, en fait c'est pas tous jusqu'au jour que... En fait, c'est une probabilité tellement énorme que ça va arriver. Et même s'il y a une bonne personne dedans, bah c'est très bien, mais en fait, tout le monde est une bonne personne pour une autre personne. Donc il y a un problème comme ça, de contamination et des choses comme ça.
C'est vrai que c'est problématique, vu que c'est la majorité des personnes qui ont des comportements problématiques, si on regarde leur genre ou leur sexe, c'est quand même plutôt des hommes. Bon, il faut accepter de faire un peu des généralités pour faire bouger les choses, quoi. Bien sûr qu'il y a des hommes qui ne sont pas des agresseurs, mais on a besoin de généraliser pour faire de la politique, en fait. On ne peut pas se permettre de faire des articles et des tests de sociologie à chaque fois qu'on pose un hashtag sur les réseaux sociaux. Donc non, je trouve que ça dessert plutôt les changements de comportement que ça ne les sert, ce hashtag.
Est-ce que c'est pas du trolling, finalement? Est-ce que c'est pas juste un truc, coucou, je sais que... Enfin, les personnes qui mettent ça, je suppose qu'ils sont pas quand même de bonne foi. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de décrédibiliser ce qui se passe? En mode, tiens, on met un truc parce que, oui, mais moi je connais une bonne personne, ou moi je suis une bonne personne, et c'est bon, je suis perché, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez des représentations des hommes dans les films ou les séries, ou dans les représentations culturelles?
Généralement, les représentations, elles sont quand même à l'image de la masculinité hégémonique qu'on a envie de déconstruire, et du coup c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de représentations soit d'autres types de masculinité ou soit de genre un peu troublé, non-binaire, par exemple. Ça existe, mais c'est encore trop peu répandu. Et du coup, nous, on est très friands de ces représentations-là, et donc on se partage les contenus culturels dans lesquels il y a d'autres représentations. Là, tout de suite, me vient un film d'un réalisateur belge qui s'appelle Lucas Dont, et qui s'appelle Close, par exemple, qui offre une super belle représentation de jeunesse et d'amitié entre deux petits garçons.
Quel genre de nouveaux récits on pourrait construire et comment on pourrait les construire?
Je pense qu'il y a des habitudes, en fait, dans les scénaristes. En fait, c'est souvent des hommes qui sont entre hommes. Il y a un problème de représentation dans les postes ou de pouvoir ou de décision, en fait, de ces films, de ces créations artistiques. Et ça, j'invente pas la pluie, hein, mais c'est des choses qu'on le sait depuis très très longtemps, depuis 50 ans, voire plus. Et ça, c'est politique. Je pense qu'il faut finalement mettre des quotas ou des choses en place pour forcer cette multiplicité. Je sais que ce ne sera pas fait comme ça. J'ai l'espoir qu'en fait, par exemple, les quotas aux États-Unis, ça a fait changer des choses. C'est mon espoir à moi. Et du coup, cette représentation-là, il y a ce côté-là, en gros, d'inclure finalement les minorités dans les décisions de pouvoir. Et il y a le deuxième côté, finalement, il faudrait peut-être aussi, comme les scénaristes, comme les jeux de rôle, finalement, laisser le hasard faire les choses.
Moi, j'aurais peut-être une dernière question sur le collectif, sur qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie du collectif Casse-Noisette?
Ça, en fait, ça permet de s'ouvrir sur des questions et d'avoir une sorte d'intelligence collective. Après, on est tous un peu différents, on n'est pas forcément sur des questions intimes, mais dès qu'on touche à intime, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée et qui, des fois, fait des frictions, mais souvent, en fait, crée quelque chose de beau. C'est ces moments-là, en fait, de dire, OK, on réfléchit, mais ça sert. On n'est pas dans le vent, on essaye d'être concret, et on va l'être de plus en plus, avec les théâtres de l'opprimé, par exemple. Et c'est des choses qui vont être de plus en plus sensibles, finalement, je pense, hein, on ne va pas rester en surface. Voilà. Donc moi, ça m'apporte ça, c'était ma volonté première quand je suis rentré dans le collectif. Essayer de ne pas avoir des comportements de domination. Et c'est des choses que je vois en plus, en fait, il y a des petites glissades, mais je les vois maintenant.
Moi, je pense que ça m'apporte un cadre qui me fait sortir d'une situation d'impuissance individuelle face à une société qui évolue. Ça me permet de ne pas me sentir seul face au patriarcat. Ça me permet de ne pas avoir le sentiment de reposer uniquement sur des féministes pour creuser pas mal de questions. Et du coup, c'est assez empouvoirant. J'ai l'impression de me débrouiller, entre guillemets, pas tout seul parce qu'on est en groupe, mais pas de dépendre de féministes ou d'autres personnes pour critiquer un peu la masculinité hégémonique. Et puis, accessoirement, je rencontre des belles personnes et je passe des bons moments. Et ouais, j'ai à chaque fois hâte de revoir les personnes que je croise.
Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi.
Nous étions avec des membres du collectif Casse-Noisette pour discuter masculinité hégémonique et représentation sociétale de l'homme. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez retrouver le collectif lors de leur prochain événement, le Café Noisette du 24 mai à 18h30 au Café Le Polder à LM. Ils prendront le temps de discuter avec vous du collectif. Vous pouvez aussi les retrouver sur leur site internet cast-noisette.org ou sur Facebook cast-noisette-brison, la masculinité dominante.
Moi je change tant de jeu, lancé je m'avance, trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici. Un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas. Un peu d'ego, un peu de sale, un peu de salaud, un peu de calme. Un peu de candeur, un peu de vice, un peu de daron, un peu crise. Un peu nature, un peu glace, un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi.